Mais moi, je vous dis ça, j'ai des frissons, c'est l'époque messianique, c'est phénoménal. Je crois que Dieu a dit halte au sommeil du peuple juif. Am Israël chai vekayam. Am Israël, juif, yéhoudi. Ce shiur, ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Frank Avraham ben Kamuna Malka Zechron Levracha de mémoire bénie, et de Myriam Bat Mahana ou Mahana Zechron Levracha de mémoire bénie. Ok, chers amis, hier on a vu, j'ai parlé de Parashat Vaishlach, je fais un résumé du cours Germania, où on voit que Esav vient avec 400 hommes, 400 c'est la croix gammée, et. Yaakov décide de séparer son camp en deux, il ne l'a jamais fait, on a dit que ça revenait sur l'époque de la Shoah, même vu qu'il y avait un camp au féminin, un camp au masculin. Et juste après, c'est écrit « Vayalen sham balayla hu ». Il a dormi là-bas cette même nuit. Ce qui est très étonnant, t'apprends que Esav vient avec 400 hommes pour te tuer, tu vas aller dormir. Et il faut même arriver à s'endormir, d'accord ? Normalement, tu paniques, super panique. Dans le même verset, Vaikar minaba beyado minchal Esav achiz. Et il a pris, ce qui est proche de sa main, un cadeau à son frère Esav. Et après, le verset d'après, Izim Ataim, Tiashim Esrim, on dénombre tous les types d'animaux qui ont été envoyés et leur quantité. En tout, 580. On a expliqué hier que ça correspondait aux 5 800 000 juifs qui sont morts durant la Shoah. Gematria Sa'ir, Gematria du bouc, bouc la Azazel, le bouc qu'on envoie pour se faire expier. Ah, ça veut dire quoi qu'il dormait? Ben, si on parle du peuple d'Israël, il y a des périodes où le peuple d'Israël il est réveillé, il est proche d'Hachem. Et il y a des moments où le peuple d'Israël il est endormi, il est loin d'Hachem. D'accord? Il suit tous les envies de ce monde, d'accord? Et c'est loin d'Hachem. Et Hachem, d'habitude, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? C'est marqué Hachem Tzilcha Aliyad Imenecha. Hachem, il est ton ombre sur ta droite. Ce que tu fais, il fait. Quand tu lèves la main droite, tu vois l'ombre, elle se lève aussi. Tu baisses la main droite, la main gauche, peu importe, tu vois l'ombre aussi qui se baisse. Hachem, il te suit. Tu t'endors, ben moi je m'endors aussi. Ah, c'est marqué, « Hine lo'aynum ve'lo'ishan shomer Israël » ne va pas s'endormir et être ensommeillé le garde d'Israël. Ça, c'est Dieu tout là-haut. Il voit tout, il est là. Mais dans la partie plus basse, qui gère le peuple d'Israël, Dieu, il va diminuer de sa hashgacha, de sa providence divine. Donc Shoah. Donc Shoah. Terrible. Maintenant, c'est marqué ici, Bayel en Sham, Balaila Haru. Il a dormi là-bas sept nuits. Quand on dit une chose pareille, Balaila Haru, ça veut dire sept nuits, mais ça vient exclure une autre nuit. Tu aurais pu me dire, il a dormi là-bas la nuit. D'accord, on comprend bien qu'il s'agit de cette nuit, pas une autre nuit. Pourquoi tu me dis Balaila Hahu, cette nuit, pour préciser cette nuit et pas une autre? Il semblerait qu'il y a une autre nuit où il ne va pas s'endormir. C'est quand? C'est dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, il y a un verset d'ailleurs, tout le public le dit à haute voix parce que c'est écrit qu'à ce moment-là commence le miracle. Balaila Hahu, Nandedash, Nantameler, cette nuit, le sommeil du roi a été dérangé. Le roi Achashverosh. Il vient de sortir du festin que lui organisait sa femme, la reine, avec Haman. Lui, Haman et la reine. Et la reine est rentrée l'inviter pour ce festin en risquant sa vie, parce qu'elle est rentrée à un endroit où on ne peut pas rentrer. Elle est quand même rentrée. C'est marqué que si le roi ne tend pas son sceptre à la personne qui est rentrée, on le tue. Alors il a tendu son sceptre, elle l'a touché, et Baruch Hashem a eu la vie sauve, et elle a invité le roi. Il a compris qu'il y avait quelque chose de super important. Si elle prend un risque comme ça de sa vie de rentrer chez le roi, il y a un risque. Donc elle l'invite, elle vient avec, il vient avec Haman au festin d'Esther et lui demande « Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, jusqu'à la moitié de la royauté, je te donne. » Elle lui dit « Si vraiment tu veux me faire plaisir, viens demain au festin que je vais organiser avec Haman et je te dirai. » Bon, lui il va dormir. Puis, au milieu de la nuit, il se réveille. C'est marqué dans le Midrash que Hachem lui a envoyé un ange. Pourquoi l'envoyer un ange? Parce que Hachem, il a vu que le peuple d'Israël se réveillait. Ils ont jeûné 3 jours de suite, y compris le soir du Seder. Pas de Seder, pas de Matzah, rien, on annule tout. Parce que s'il n'y a plus le peuple d'Israël, à quoi ça sert de manger de la matza? D'accord? Ils ont fait tchouva. Ah, vous faites tchouva? Moi aussi, Nadedash Natamelech. Quand on s'est marqué Hamelech, le roi dans la Megillah, on sait que c'est Dieu. Quand on s'est marqué Hamelech Achashverosh, c'est Achashverosh. Quand c'est le roi, c'est Dieu. Dieu aussi s'est réveillé. Ah, vous étiez endormi? Quoi endormi? Ben oui, comment commence la Megillah? Ils ont mangé au repas de Achashverosh dans les ustensiles du temple. Il y a eu une grande colère dans le ciel. Et là, ils ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva. Alors, tu te fais tchouva, moi je me réveille dans le ciel. Nadedash Natamelech, le sommeil du roi était dérangé, du roi des rois. Achashverosh aussi, Achashverosh. Dieu lui a envoyé un ange qui lui a dit, mais dis-moi, c'est quand même bizarre qu'elle invite toi avec Haman. Pourquoi Haman? Une fois, deux fois. Peut-être que les deux, ils veulent être ensemble, se marier, te tuer. Mais il dit, mais pourquoi personne ne me dit rien? C'est pas possible. Il y a sûrement quelqu'un qui est au courant. Pourquoi on ne me dit rien? Peut-être que des gens m'ont fait des gentillesses dans la vie et j'aurais pas dit merci. Et j'en savais, le roi ne sert à rien de faire une gentillesse parce qu'il ne fait même pas attention à ça. Il demande qu'on lui amène le Sefer HaZichronot, le livre des souvenirs, donc toutes les chroniques de l'histoire. Et là-bas, les anges aussi, ils ont ouvert la bonne page. C'était un des fils de Haman qui ouvrait. Il voyait ça, il ouvrait une autre page. Et tac, de nouveau s'ouvrait à la page là. À la fin, il a dû lire que Mordechai, il y avait les deux gardes du roi, Bictana Vateresh, qui ont décidé de le tuer. Et ils ont parlé entre eux en une langue qui s'appelle le Tursite, se disant que personne ne comprenait. Mais à côté d'eux, il y avait Mordechai. Or, Mordechai faisait partie du Sanhédrin. Au Sanhédrin, on pouvait faire partie du Sanhédrin que si on savait 70 langues, dont le Tursite. Et il a compris. Et il a entendu qu'il voulait tuer le roi. Alors il a dit à la reine, pour qu'elle dise au roi que, attention, ces deux-là vont te tuer. Ils ont vérifié, ils ont trouvé qu'effectivement, ils voulaient les tuer, et ils les ont tués à eux. Et ça, ils ont mis dans le livre des souvenirs, des chroniques. Demande à Achashverosh, et est-ce qu'on lui a fait, à ce Mordechai-là, on lui a rendu une récompense pour cela? Non, non. Ah ben voilà, ben c'est pour ça. Les gens me sauvent ma vie, je ne fais rien pour eux. À ce moment, il y a Haman qui rentre le matin pour proposer au roi de pendre Mordechai. Avant qu'il ouvre la bouche, le roi lui dit, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire à la personne que je veux beaucoup honorer? Et Haman, ce tordu, se dit, qui le roi vaudrait plus honorer que moi-même? Et il dit, il faudrait lui amener le cheval du roi, avec la couronne du roi, le prendre dans la rue, lui dit, voici ce que fera le roi à la personne qui veut honorer. Et le roi, il s'est dit, ce type-là, il veut se marier avec ma femme et devenir le roi. Ben voilà, la preuve qu'il veut devenir le roi, il veut ma couronne, il veut mon cheval, il veut tout ça. Il dit, bon, va, fais tout ça à Mordechai. Mordechai? Oui, Mordechai le juif. Mais il y a beaucoup de juifs qui s'appellent Mordechai. Non, celui qui est à l'entrée là-bas. Ah non, 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 lui, je ne peux pas, c'est mon ennemi. Tu vas comme ça. Non, mais donnez-lui un pays. Bon, tu donnes aussi un pays. Donne-lui de l'argent. Donne-lui aussi de l'argent. À la fin, tout, il a tout donné, tout ça. Et le roi était très content comme ça de montrer à Haman que ce n'est pas lui le préféré, que c'est Mordechai. C'est là qu'a commencé le miracle. Après, ils sont allés au festin. D'ailleurs, Haman arrive au festin tout sale parce que sa fille, elle a vu que lui, il prenait sur le cheval Mordechai. Mais sa fille n'aurait jamais cru que c'est Mordechai qui est sur le cheval et Haman qui tire. Il s'est dit, c'est Mordechai qui est en train de tirer le cheval et c'est Haman qui est sur le cheval. Elle a jeté la poubelle sur qui? Sur le type qui tirait le cheval, qui était Haman en fait. D'accord, donc lui, après tout à coup, il arrive à la maison puant. Et les gardes arrivent et disent, viens, tu dois arriver maintenant au festin. Il arrive tout puant au festin, etc. Et là, Esther dit au roi, il y a un homme qui veut la fin de mon peuple et de moi-même. Haman hara azé, soit Haman mauvais, etc. Et le roi a dit, ok, c'est bon, tuez-le. Et on l'a pendu le lendemain sur le mât qu'il avait élevé, qui faisait 50 amas, 25 mètres de haut. 25 mètres divisé par 3, ça nous fait 8 étages. 8 étages de haut, un mât comme ça. Là-bas, on a pendu Haman. Et comme ça a eu lieu le miracle. En tout cas, il est écrit dans la Megillah, « Balaila haru nadedash natamelech » cette nuit, et pas une autre. Ça veut dire qu'il y a une autre nuit où le peuple d'Israël a dormi. C'est quand? Ce qu'on voit ici, « Balaila haru » avant la Shoah. Il n'y a jamais eu de l'histoire juive une période où le peuple d'Israël a quitté la Torah autant qu'avant la Shoah. À l'époque, le rabbi Elchanan Wasserman, qui était le grand élève du Chafetz Chaim, Chafetz Chaim est décédé en 1933. Il a écrit en 1937 un livre qui s'appelle Divrei Chachamim Benachat Nishmaim. C'est un verset de Michelet. Les paroles de sages se disent avec calme. Et d'ici, quand je vois la situation de notre peuple, je devrais me déchirer les habits, m'arracher les cheveux, hurler. Mais c'est écrit que les paroles des sages se disent avec calme. Alors je dis avec calme. Attention, ça va barder. C'est écrit dans Eheskel 20. Quand vous direz, vous voulez être comme les goïms, c'est exactement ce que dit le peuple d'Israël à l'époque. En Allemagne, il y avait une assimilation terrible, 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 terrible. Mais toute l'Europe, à part là. Les gens croient que les gens étaient super religieux à l'époque. Des histoires, hein, il y avait quelques bleds comme ça en Pologne, par-ci, par-là. Mais c'était la grande, par millions, les juifs ont quitté la Torah. Et Eheskel, chapitre 20, il dit, quand vous dites, soyons comme les goïms, je jure que d'une main puissante, d'un bras étendu et d'un courroux débordant, je serai votre roi. Et le Rabbi Chaim Wasserman, le élève du Rav Israël, dit, ça commencera par un bras puissant. Il y aura la nuit de cristal, il y aura les premiers décrets contre les juifs, on parle sur eux très très mal. On fait tchouva, ça ira. On fait pas tchouva, il y aura le bras puissant. Le bras, c'est plus que la main. Et s'il n'y a pas une tchouva avec le bras puissant, il y aura le courroux débordant, une colère qui déborde, à trop loin, la Shoah. Hélas, on a eu tout ça. Cette nuit-là, du peuple d'Israël, où tout le monde dort, elle a duré jusqu'à quand? Ben, ça n'a pas changé après la Shoah. Ils sont venus ici, ils ont créé en Israël un État laïque, anti-Torah, et sont battus contre la Torah énormément, énormément. Tous les bons sfaradines qui venaient des pays qui étaient encore un peu pratiquants, on les amenait au kibbutz, tout ça, on leur piquait leur tefilin, etc. On amenait des filles, on les a complètement terribles. Et on a éduqué ici une société entière à ne pas croire en Dieu et à avoir la haine de la Torah. La haine de la Torah. Il y a deux choses, comme je racontais l'autre jour, c'est que les orthodoxes ont fait beaucoup d'enfants et il y a le moment de tchouva. Phénoménal. Le plus grand acteur israélien, Uri Zohar, il a fait tchouva. Et après d'autres, etc. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de grands noms de la télévision, etc., sont en train de faire tchouva. Et depuis le 7 octobre, je crois que Dieu a dit halte au sommeil du peuple juif. Il a mis le 7 octobre un réveil, mais pas un réveil matin explosif, électrique, d'accord. Terrible, terrible. Mais Am Israël s'est réveillé. Le plus qu'ils sont réveillés, ce sont les otages. Les otages qui étaient non religieux. Ils ont fait tchouva à Gaza, dans leurs cellules. Phénoménal. Et les familles ont appris cela, ils ont commencé aussi à faire tchouva. Et ils en parlaient, sans cesse. Et le peuple d'Israël qui était tellement anxieux, tellement inquiet pour tous leurs frères, qui étaient, tout le monde avait soit de la famille, soit des connaissances qui étaient en prison là-bas, ou des gens qui étaient à l'armée en train de se battre, il y avait une panique terrible, terrible. Et bien, quand tu paniques, tu appelles papa, tu appelles maman, rien, tu commences à appeler Hachem. Et le peuple d'Israël a fait une tchouva phénoménale. Et je vous dis ici, il y a un article qu'on m'a envoyé, phénoménal, qui vient du site français Makara. Moi, je ne connais pas les sites, mais on m'a dit c'est un site connu français, Makara. Et je vous lis cela. Après de nombreuses années d'investissement, films et conférences sur l'occupation israélienne des territoires arabes. Donc des Israéliens critiquent l'État d'Israël qui se permet d'occuper des territoires arabes, comme ici par exemple, Ramoth, d'accord? Rencontre avec des familles de terroristes, parce qu'on est pour eux, tentative de couper tout lien avec la religion. Enseignants encourageant les élèves à manifester au carrefour contre la droite. Directeurs refusant de chanter l'hymne national et d'accrocher le drapeau d'Israël. Activisme d'extrême gauche à la place des études. Volonté de façonner une nouvelle génération progressiste, éclairée et surtout dépourvue d'identité juive. On est israélien. L'histoire du peuple d'Israël commence à la création de l'État. Avant, c'est l'exil, c'était des maboules, c'était des primitifs. Tout ça à la poubelle. Puis arrive un sondage de la chaîne 12, qui est plutôt de gauche, qui vient balayer tout le projet. Le présentateur en parle d'une voix triste, presque mélancolique, le corps brisé, à propos de la jeunesse israélienne qui votera aux prochaines élections l'équivalent de 17 députés sur 120. Et voilà pourquoi, du côté droit, de la droite, 75% se définissent comme de droite, 14% comme d'extrême droite, et seulement 5% se définissent comme de gauche. De tout temps en Israël, c'est à peu près moitié-moitié. Et la gauche, c'est ceux qui veulent qu'il n'y ait plus d'identité juive. On est israélien, moderne, anti-religieux. 4%, pardon, 5% de gauche. Mais il y a de quoi faire Pourim. C'est phénoménal. Les partis les plus populaires, Otzma Yehudit, Puissance Juive et le Likoud. Mais attendez, ça devient encore plus problématique pour les stratèges de l'ingénierie des consciences. Tous les juifs, par les Israéliens de gauche, qui essayent de réfléchir comment faire pour qu'il y ait moins de religieux. Depuis le 7 octobre, 80% croient en Dieu. C'est phénoménal. Vous n'avez pas connu, vous, l'Israël d'il y a 30-40 ans. Mais ça n'existait pas. C'était les fous. Une fois, je suis allé à Tel Aviv en costume, avec le portier m'a regardé comme si j'étais un martien. D'accord. Ça n'existait pas, un truc pareil. 56% croient en la venue du Messie. 43% embrassent les Mezouzot. 50% de ceux qui ont moins de 30 ans sont chômerés Shabbat. Vous savez ce que ça veut dire, ça? 50% de ceux qui ont moins de 30 ans en Israël sont chômerés Shabbat. Mais moi, je vous dis ça, j'ai des frissons. C'est l'époque messianique, c'est phénoménal. C'est le réveil d'Hachem, on se réveille du sommeil, Bezrat Hachem. Ben là, il a Ahun Adidash Natamelech, on l'a en vrai. Et seulement 14% se définissent comme non traditionnels. Autrement dit, après des années, entre guillemets, d'éducation aux valeurs humanistes, de lavage de cerveau progressiste, il en ressort une génération plus juive, plus croyante, plus sioniste et plus à droite. Bravo, vraiment impressionnant. Tous les budgets, les programmes, les ateliers, les journées thématiques et les présentations. Et au final, vous avez obtenu exactement l'inverse de ce que vous cherchez à produire. C'était le résultat de la rééducation. Continuez ainsi. Ils l'ont eu dans le baba. Ils voulaient avoir un pays goy, ils ont un pays juif. La jeunesse n'est pas stupide. Elle voit très bien qui se tient en face d'elle, qui se tient en face d'elle et quels sont vos projets. Vous découvrez encore et encore que le peuple d'Israël n'est pas si facile à remodeler. J'ai envie de pleurer, excusez-moi, je suis touché. Le peuple d'Israël est vivant, envers et contre tout. Envers et contre tout. Am Israël, Chai et Kayam. Am Israël, juif, yéhoudi. C'est phénoménal. On vit une époque extraordinaire, donc pas étonnant que maintenant on se trouve tout près de la guerre avec l'Iran, qu'on espère que ça va être la fin, Bezrat Hashem. Oui.
Normalement, plus l'événement est important et marquant, plus ça entraîne des changements. Normalement, la Shoah, c'est plus marquant que le 7 octobre. On se fait qu'à la Shoah, il n'y a pas eu un
problème. On a parlé dans le cours que j'ai fait il y a quelques jours. Le Zohar dit qu'à la fin, il y aura un grand malheur. Et Mashiach aurait pu venir après la Shoah. Et crois-moi que les gens qui ont survécu à la Shoah, ils attendaient le Mashiach de toute leur force. Mais le Zohar a dit, si ça serait arrivé après le malheur, seulement les tzadikim du peuple d'Israël auraient pu voir le Mashiach. Et il n'y en avait pas beaucoup. Le Zohar a dit qu'on a proposé à Moshe Rabbeinu, est-ce que tu es prêt d'attendre encore 70 ans après et vous aurez la galoute, l'exil du Erev Rav? Il a dit oui. Le Erev Rav, c'est l'État d'Israël, laïque. C'est tous ces gens-là qui veulent la fin du peuple juif en tant que peuple juif, qu'on soit un peuple goy. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y a le monde du Tshuva, il y a les Haredim qui ont fait beaucoup d'enfants. Et dernièrement, comme j'expliquais dans ce cours-là, ils ont commencé à attaquer le monde de la Torah, le monde des Yeshivot. Jusqu'à maintenant, ils essaient. Ils ont attaqué très fort, très méchamment. Là, Moshe Rabbeinu nous dit non, la Torah c'est moi déjà. Là, je n'accepte pas. Fini, terminé, Géoula. Et on y est, Bezrat Hashem. Il y a eu le réveil matin terrible, électrique, explosif du 7 octobre. Et là, on arrive à Bezrat Hashem très bientôt à la fin. Guerre avec l'Iran, on va gagner, Bezrat Hashem.
C'est quoi le laps de temps des 70 ans?
Le 70 ans, ouais. Ça commence après la Shoah, jusqu'à 70 ans après. On attend encore un peu, environ ou plus, aujourd'hui, 70 ans ou plus. J'ai encore un petit chidouche à vous faire concernant la Megillat Esther, qui a à voir un peu avec ce que nous sommes en train de dire. La Megillat Esther, c'est le seul livre de toute la Bible dans lequel jamais le nom de Dieu n'est mentionné. Megillah signifie dévoiler, Esther, ce qui est caché. Parce que dans l'histoire, ça c'est toute l'histoire de Megillat Esther, c'est passé sur 12 ans. Et bien un truc après un autre, il fallait mettre ça ensemble et comprendre qu'en fait il y avait la main de Dieu. mais c'est caché. Néanmoins, il y a deux endroits dans la Megillah où on peut voir le nom de Dieu. Une fois, on le voit en tant que rachetivot, initial de quatre mots. Yavo, c'est Esther qui invite le roi. Yavo Hamelech Vehaman. Yavo Hamelech Vehaman Hayom. Que viennent le roi et Haman aujourd'hui, au festin que je réparais. Yavo, c'est Yud. Hamelech Hey. Vehaman Vav. Hayom, hey, yudke vavke. Le seul endroit, toute la Megillah, où tu as les quatre lettres du nom de Dieu, en début de mot. Il y a un autre endroit où on voit yudke vavke en fin de mot. Lorsque, pendant le deuxième festin, Esther dit au roi, Ish, Rav Eroyam, un homme mauvais qui veut nous tuer, Haman, Hara, Hazé, ce Haman. Le roi se lève, furieux. Et amène Esther, essaye de calmer Esther. Je lui dis, pourquoi ? Kira'a ki kalta ela vara'a. Il a vu que le mal l'a atteint. Kalta, c'est même fini. Pour finir, le mal l'a atteint. Ki, yud, kalta, hey, elav, vav, ara'a, hey, yud, ke, vav, ke, en fin de mot. Pourquoi ? Par hasard, vous me direz. Parce que franchement, où est le rapport avec le nom de Dieu et qu'elle invite le roi et Haman au repas, et à la fin, ici, pfff. Ah, que je pourrais y aller là toujours, pas qu'au repas. Alors, Rabbi Akiva, dans Pirkei Avot, il dit, ce monde-ci, ça ressemble à un grand repas. Mais à la fin, il y a la facture. D'accord ? Ou tu t'empiffres et après tu vas en enfer, ou tu fais attention, tu manges ce qu'il y a de cachère, tu fais les brachot comme il faut bien, tu vas au paradis. Quand Dieu a créé ce monde-ci, il a créé le bien et le mal. Ça, c'est que vienne le roi. Le roi, c'est le côté du bien, c'est la Kedusha, c'est Dieu. Va Haman, le côté du mal. Hayom, aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce monde-ci, il y a ces deux forces. Il y a le roi, la Kedusha. Il y a Haman, la Touma. Et c'est le repas. D'accord ? Venez au repas, c'est ça qu'il y a. Donc, on nous met Yudke Vavke en début. Des mots pour nous dire que c'est la situation actuelle. Dieu est à la base de tout, au début, il a créé le monde comme ça, et c'est comme ça qu'il est. Hayom, venez aujourd'hui. À la fin, le mal ne va pas rester pour toujours. À la fin, on le dégage. C'est qu'on va mettre le nom de Dieu à la fin des mots. C'est ce que Dieu va faire à la fin des temps. Ki kalta elavara, il a vu que pour finir, le mal l'a touché. Haman, à la fin, il sera touché et débarrassé. Ça sera la guerre avec l'Iran, parce que comme j'explique dans mes autres cours, je pense que l'Iran, c'est Amalek. Ils vont être éliminés. Et ma chère viendra Bezrat Hashem. C'est les deux endroits où on voit le nom de Dieu, en début et en fin de mot. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Bonne journée à tous.